France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, Emmanuel Macron revient à Beyrouth. Il y était il y a 3 semaines, juste après la double explosion qui a ravagé une grande partie de la capitale libanaise. Le président français veut essayer de débloquer la situation politique alors que le pays est dans un état dramatique. L'ONU redoute même une pénurie alimentaire avant la fin de l'année. Avec nous en direct de Beyrouth, Sharif Majdalani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Un mois après la catastrophe, on est toujours dans une situation d'urgence?
Ah oui, plus que jamais, bien sûr. Ça fait un mois que l'explosion a eu lieu et il ne s'est quasiment rien passé de la part des pouvoirs publics, du gouvernement. C'est exclusivement la société civile, les gens qui ont pris en charge de remettre un peu d'ordre, de commencer à reconstruire et d'aider les gens, du point de vue alimentaire ou autre, à survivre. Mais pour le reste, évidemment, l'urgence est absolue si on veut un redressement politique et économique.
Commencer à reconstruire, dites-vous, la reconstruction a démarré, on n'en est plus au stade de déblayer les gravats?
Non, en fait, la reconstruction a commencé, mais évidemment, dans la mesure où les gens peuvent reconstruire eux-mêmes, c'est-à-dire individuellement, chacun tente de reconstruire sa propre maison, ou alors des associations de la société civile aidées par des aides internationales, mais totalement indépendantes des pouvoirs politiques dans le monde, commencent à rebâtir, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent sans maison, carrément. Donc, il y a effectivement un début de reconstruction, mais qui est une reconstruction vraiment élémentaire pour de survie, si vous voulez. Mais la reconstruction générale d'un pays n'a absolument pas commencé, et d'ailleurs, on a l'impression que les gouvernements et l'État s'en soucient très peu.
Dans quel état d'esprit sont les Libanais aujourd'hui ?
Écoutez, je pense que les Libanais ne sont pas vraiment sortis d'une sorte de très forte dépression qui a suivi l'explosion. On est encore très bas, le moral est très bas. Il y a d'ailleurs un terrible mouvement d'émigration. Les gens pensent vraiment en masse à partir. Ceux qui le peuvent sont déjà en voie de le faire. Et ceux qui ne le peuvent pas se préparent à cela. Donc on est dans une situation vraiment désastreuse du point de vue psychologique, certainement. La population est dans un état lamentable.
Et vous pensez vraiment qu'il va y avoir beaucoup de départs ou voilà, c'est juste l'onde de choc qui fait qu'on se dit il faut partir, il n'y a plus rien à faire, mais finalement les gens vont rester? Ou dans votre entourage, vous avez vraiment des gens qui sont en train de faire leurs valises?
Ah, mais énormément de gens qui sont en train de faire leurs valises, des gens qui sont déjà partis, des gens qui déjà préparent leur départ du point de vue pratique et en cherchant notamment du travail ailleurs ou en commençant à construire quelque chose à l'étranger. Ça se voit et vous me demandez si des gens dans mon entourage, oui, des gens dans mon entourage sont déjà en train de se préparer à partir, il y en a qui sont déjà partis. On est dans une crise économique qui pouvait préparer à ces départs, mais les gens tentaient de tenir, de résister malgré tout. Mais l'explosion a détruit tellement d'entreprises, tellement d'initiatives dans tous les domaines, aussi bien dans l'art, dans les affaires, que les gens sont d'un coup face à une impossibilité de continuer. Et du coup, ils n'ont plus d'autre alternative que d'aller voir ailleurs.
Et vous envisagez de partir ?
Moi, non, je n'envisage pas de partir, mais parce que je suis à l'université, donc j'ai un salaire, je peux continuer à travailler. Ma femme est psychothérapeute, il y a un besoin urgent de gens comme elle pour aider. Mais en revanche, mes enfants se demandent réellement s'ils ne devraient pas poursuivre leurs études à l'étranger. Et ça, on est en train d'y réfléchir sérieusement, hélas.
Et est-ce que vous arrivez encore à écrire depuis un mois ou est-ce que votre esprit est entièrement accaparé par cette crise et empêche toute créativité ?
En fait, la créativité, si j'étais en train d'écrire quelque chose qui n'avait rien à voir, je pense que je n'aurais pas pu. Pendant pratiquement 10 jours, j'étais complètement tétanisé, je n'ai rien fait du tout. Mais il se trouve, tout à fait par hasard, j'avais commencé une espèce de journal qui va d'ailleurs être publié bientôt sur la vie quotidienne en période de crise. Et ce qui est arrivé. Et donc, je l'ai intégré dans le travail que je suis en train de faire, qui est un travail plutôt cathartique. Mais d'un autre, si je devais écrire quelque chose de tout à fait différent, un roman sur une autre période, je n'aurais pas pu, probablement. C'est vraiment terrible.
Oui, allez-y, pardon.
Non, je veux dire, on est réellement tétanisé par ce qui s'est produit. C'est-à-dire que c'est un tel choc que si on n'est pas réellement dedans, en train de macérer, on ne s'en sortirait pas. Et donc, le travail d'écriture que je suis en train de faire là actuellement, que j'ai terminé, était lié à ce qui s'est produit. Sinon, je pense que je n'aurais pas pu écrire. Non.
Sharif Majdalani, Emmanuel Macron revient à Beyrouth aujourd'hui, en fin de journée. Qu'attendent les Libanais de la visite d'Emmanuel Macron ? C'est important qu'il revienne, il a un rôle important à jouer ?
C'est fondamental qu'il revienne. D'abord, il avait promis de revenir et il revient. Et vous savez que chez nous, les promesses sont des choses que l'on ne contient jamais. Le fait de promettre quelque chose et de s'y tenir est déjà en soi pour nous quelque chose d'extraordinaire. Mais beaucoup plus important, du point de vue symbolique, d'abord la présence d'un homme politique qui a une dimension présidentielle dans un pays où il n'y a plus aucune sorte de présidence. C'est un pays dans une vacance de politique. Les hommes politiques sont totalement absents ou bien ils constituent une caste qui est complètement à côté de ce qui se produit, qui vit dans le déni. Et là, on a un homme politique, évidemment, qui est un président de la République et qui vient et qui parle aux gens qui semblent concernés par ce qui se passe, contrairement à notre classe politique. Et pour nous, c'est extrêmement important. Et par ailleurs, Emmanuel Macron a promis des choses. Évidemment, je ne sais pas quel risque il prend en promettant de nous aider à régler la crise, mais on a fondé beaucoup d'espoir sur sa deuxième visite.
Mais quelle est sa marge de manœuvre? Quel moyen de pression il a?
À vrai dire, je ne sais pas. Et beaucoup, beaucoup de gens s'interrogent sur les moyens de pression qu'il a. Il semblerait qu'il ait l'appui de beaucoup de grandes puissances internationales pour faire pression, notamment sur le Hezbollah, sur le président Aoun. Et de ce point de vue, c'est très important aussi pour nous, parce que rien ne poussera ces gens à sortir de leur déni et du refus d'agir que des pressions internationales que probablement, je ne sais pas, le président Macron apporte avec lui.
Un nouveau Premier ministre doit être désigné aujourd'hui, il va y avoir des consultations parlementaires. Est-ce que vous avez un espoir de changement ?
Avec ce Premier ministre, non, aucun, absolument aucun, zéro. C'est un homme qui a été désigné.
Oui, ça devrait être, on va donner son nom à Mustapha Adib, qui est l'actuel ambassadeur du Liban en Allemagne.
Oui, bah écoutez, c'est un parfait inconnu. Je pense que pas une seule personne au Liban, mais pas une seule personne ne savait qu'il existait, ne connaissait son existence. C'est un homme qu'on nous parachute, comme le précédent d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très drôle, mais là, sur les réseaux sociaux, ça a été un éclat de rire parce que l'un et l'autre, le précédent et celui-là, ont des noms qui sont des anagrammes l'un de l'autre. On a l'impression d'avoir les deux Dupont. C'est un homme qui arrive, on ne savait même pas qu'il existait il y a 3 jours. Donc forcément, c'est un type qui n'a aucun programme, aucune vision d'avenir parce qu'il y a une semaine, il n'était même pas possible, probable qu'il vienne. Et du coup, c'est quelqu'un qui arrive sans programme, sans vision d'avenir, alors que nous avons besoin essentiellement d'un programme de redressement du pays.
Mais alors qui pour prendre la relève? Puisqu'on entend quand même beaucoup que toute la classe politique libanaise est vérolée. Il faut bien quelqu'un qui donc est en dehors de cette classe politique pour pouvoir prendre la relève, non?
Mais bien sûr, absolument. Et des noms, enfin tous les groupements de la révolution, ce qu'on appelle la révolution, c'est l'insurrection qui a eu lieu il y a un an, ont proposé des noms. Il y a des noms, il y a des personnalités qui peuvent prendre la tête du gouvernement avec un programme. Et les programmes ont été établis. Et donc il y a des possibilités d'un gouvernement de personnalité totalement indépendante et non pas désignée par la classe politique et qui pourrait entamer la restructuration de l'État sur la base de programmes qui ont été établi par l'opposition populaire issue de l'insurrection d'octobre dernier.
Merci beaucoup, Sharif Majdalani. Merci de nous avoir accordé quelques minutes en direct de Beyrouth ce matin. Et je rappelle effectivement qu'il y a un livre qui va sortir en octobre et qui s'appelle Journal d'un effondrement. Merci beaucoup. Vous étiez l'invité du 5-7.